Bien, bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir pour nous d'être ici à l'avant. Merci de nous donner l'opportunité de parler un petit peu de notre vécu. Et merci de nous accueillir comme ça à l'avant aujourd'hui. Alors moi, je vais juste commencer pour vous situer un tout petit peu sur comment s'est déroulé notre appel à la mission, David et moi. Alors, tout a débuté il y a 30 ans au Japon. Alors, David et moi, on est allés travailler au Japon, simplement parce qu'on avait envie de vivre dans une autre culture. Et le Seigneur nous a attrapés au Japon et on est devenus chrétiens au Japon il y a exactement 30 ans, avril 1993. C'est un pays qui est très précieux pour nous parce que ça a complètement changé notre vie. Le Seigneur nous a changé notre vie là-bas. On est allé là-bas, on n'était pas missionnaire, on était déjà en train de travailler. David était ingénieur, moi je travaillais dans le monde des affaires, mais on avait envie de vivre dans une autre culture, alors on est allé. Et on était enseignant dans le secondaire, au secondaire. Alors, c'est la photo que vous voyez, les grands profs avec des élèves. Et c'était ça. On a accepté le Seigneur et on faisait partie d'une église qui s'appelait The Good Samaritan Church. Et c'est là qu'on a grandi dans le Seigneur, on a été baptisés là. Et tout de suite, le lendemain qu'on a pris la décision d'accepter le Seigneur, on a commencé des études bibliques avec un couple missionnaire. Et toutes les semaines, on allait chez eux, puis on faisait des études de la Bible. Et on est revenu au Canada éventuellement. On a continué notre vie ici, normale. On a eu nos enfants. Et à un moment donné, il y a à peu près 11 ans, David a vraiment senti l'appel de Dieu de devenir missionnaire, de travailler pour Jeunesse pour Christ, Jeunesse sans limite. C'était quelque chose qui a pris du temps pour nous de prendre la décision parce que c'était toute une grosse décision. On a un peu lutté avec ça. Mais à un moment donné, lors d'un temps de prière, je me suis rappelé qu'il y avait 20 ans, parce que ça fait à peu près il y a 10 ans, 20 ans auparavant, quand on était au Japon, on marchait à la maison, on rentrait à la maison après une étude biblique, j'ai eu cette parole qui m'est venue, puis j'ai dit à David, « Oh, je pense que Dieu va nous demander d'être missionnaire un jour. » Puis je dis, non. Mais en tout cas, le temps a passé, et 20 ans plus tard, David a eu cet appel pour être missionnaire avec Jeunesse pour Christ. Entre-temps, on a eu notre belle famille, qui est notre mission principale aussi. Je vais laisser la parole à David maintenant. Et je reviendrai vous parler de quelque chose à la fin aussi. Tiens.
Peut-être, ça paraît pas, mais nous sommes des missionnaires japonais. Parce que justement, là, c'est l'Église au Japon qui nous envoie, ça paraît pas. Là, mais surtout, on est pas mal plus grand, pas mal plus blanc. En tout cas, c'est... Mais en fait, on dit souvent à nos enfants aussi qu'ils sont japonais parce que nous, on est nés de nouveau au Japon, fait que disons des racines japonaises, fait que... Mais encore là. Ah oui. Plus qu'on raconte une joke, plus souvent, là, tu sais, plus ça devient drôle, right? C'est ça, fait que... Et voilà notre mission numéro un, c'est vraiment envers nos enfants. Puis juste pour vous dire qu'ils n'ont pas appuyé le choix de photo qu'on a montré ici. C'est moi qui ai décidé la photo. Ils n'étaient pas en accord avec la photo. Mais en fait, c'est vraiment des... Comme Suzanne a prié aussi là, pour... pour nos enfants, c'est vraiment des perles, des trésors. Pour nous, c'est vraiment un trésor que Dieu nous accorde d'avoir des enfants. Et pour nous, c'est vraiment un plaisir c'est tellement une joie juste que ça soit que Dieu nous a donné ça comme mission avec notre famille. Fait que ça fait partie intégrale de notre mission envers notre famille. Donc, Thérésa a parlé un peu de notre début, là, comment on a vraiment été, c'est que Dieu nous a vraiment touchés au Japon. On a consacré notre vie à suivre le Seigneur. Et c'est vraiment 2008, 2009, mais en fait, c'est pas vrai. Là. En 97, 94, quand on est revenu du Japon, on a commencé à assister à l'église. Fait qu'en fait, on vient à l'église depuis, en tout cas, presque ça va être 29 ans. Là, fait que, et puis même, je pensais ce matin que je voyais Tim en train de danser en avant. Je pensais à Céline puis Marie-André. Je m'en rappelle quand on venait au début de l'église. C'était eux autres, c'est elles qui chantaient et dansaient en avant. Là, c'est Tim et Cathy et Zosha. Fait que c'est aussi, ça me rappelait des souvenirs il y a bien longtemps. Mais on a, en 97, moi et avec une couple d'autres personnes, on a commencé à être dans le groupe jeunesse ici à l'église. Ça, je sentais vraiment l'appel de travailler avec les jeunes. Puis là, je le fais depuis 97. Et avec, en fait, Pascal aussi, il peut témoigner de ce fait-là, parce que Pascal, c'est un des premiers dans notre groupe jeunesse il y a bien longtemps. En 97, il a commencé. Il était le jeune à ce moment-là. Et j'ai été connecté avec, en étant responsable pour le groupe jeunesse ici à l'église, je connectais avec Jeunesse sans limite qui organisait différents événements à travers Montréal. On allait souvent à un événement qui s'appelait Tremblement de cœur, tous les mois, plein de jeunes qui venaient ensemble pour louer le Seigneur, entendre les messages. Ça faisait une partie importante, c'était un aspect important de notre groupe jeunesse. Et j'ai été connecté avec Jeunesse sans limite et... Avec cette connexion, je m'impliquais davantage avec cette organisation. Et en 2011, en fait, en 1er janvier 2012, j'ai commencé comme missionnaire à temps plein dans la mission avec Jeunesse. Et Jeunesse en mission, Jeunesse pour Christ. Puis Thérésa a mentionné un peu ce parcours-là. Puis c'était vraiment un parcours quand même intéressant. Là. Dieu nous a rencontrés à plusieurs endroits, plusieurs places. Puis c'est vraiment un parcours, un appel. T'sais, Dieu nous a appelés. Puis même, comme Thérésa a dit... C'est trois mois après avoir accepté le Seigneur, on a eu cette... elle a eu la conviction. J'ai dit, non, oublie ça. Là, Dieu va nous appeler. C'est que ça va être correct. Ça va être correct. Mais il faut faire attention avec Dieu. S'il dit, oui, je vais te suivre, là, mais là, il faut le suivre. Ce n'est pas notre plan, c'est son plan. Et je suis bien content de suivre son plan et pas mon plan et un autre plan, là, de suivre son plan. Fait que c'est quand Dieu met un plan devant nous, la meilleure réponse, c'est... Oui, je te suis. Là. Fait que c'est un peu ça qu'on a dit. Là. Ça a pris du temps, par exemple, à comprendre c'est quoi cet appel, mais là, je pense que c'est vous êtes témoin un peu de cet appel dans nos vies aussi. Là. Fait que ça, c'est la famille. Donc, je voulais juste prendre quelques... Je ne sais pas si vous voyez bien là, les différentes choses, mais moi, je suis le directeur des ministères. Donc, je suis responsable pour la programmation pour Jeunesse pour Christ ici à Montréal, dont on a plusieurs centres. Fait que peut-être plusieurs d'entre vous connaissez les différents centres, mais je voulais juste... arrêter deux, trois minutes juste pour dire qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes ici à Montréal. Mais en fait, c'est à Montréal, Châteauguay, Sherbrooke, Terrebonne, on a différents endroits où on a des installations. Mais on a surtout trois grands centres et un camp. Donc, camp de la montagne, c'est un camp qui est proche de Mont-Tremblant, où justement, on est en train de rénover au complet ce camp pour accueillir... des jeunes pour les camps d'été, les retraites durant l'année. Le nouveau bâtiment qu'on est en train de construire, on va être capable de l'utiliser l'hiver aussi. Fait qu'il y aurait des opportunités d'utiliser le camp pendant toute la saison, là, toutes les saisons en fait de l'année. Fait qu'on a différents programmes qui de type camp extérieur dans un lieu qui n'est pas où c'est vraiment un différent lieu, là. Donc l'idée d'être dans la nature. Donc ça, c'est vraiment important pour les jeunes. Terra Nova, c'est notre centre à Dorval. Plusieurs d'entre vous, peut-être que vous connaissez. Il y en a plusieurs jeunes ici le connaissent bien. Là. Ils ont travaillé des camps de jour, des programmes après l'école. On fait différents partenariats avec des églises et l'école chrétienne Emmanuel. On a différents programmes qui opèrent aussi à Terra Nova. Et on est content que Tim et Myriam vont diriger le camp de jour à Terra Nova cet été. Ça fait que c'est vraiment une bénédiction pour Terra Nova, les jeunes, et pour Tim et Myriam, parce que ça fait partie d'un peu de leur développement. Ça aussi, ça me tient à cœur de voir leur développement aussi comme leader. Puis en fait, juste une petite parenthèse, c'est tellement le fun de voir Myriam qui dirige le camp. Elle a commencé, elle avait 12 ans, puis elle s'impliquait pour juste aider comme bénévole. Là, elle dirige avec Tim le camp. Là, ça fait que c'est vraiment le fun, ça. Et la corde, la santé ici, nous, on le connaît bien. Il y a souvent un programme pour le petit déjeuner, dîner après l'école, parascolaire, le camp de jour d'été. Là, il y a plein d'activités ici qui se passent. Et on vient juste, comme vous avez vu, là, on rénove la cuisine pour être ici pour un autre 15-20 ans de servir et être présent dans la communauté aussi. Station 7, c'est un centre à Châteauguay. Donc là où il y a Al Jeunesse, il y a différents programmes avec une autre école. Ils appellent ça un lunch and lounge, donc un programme où les jeunes, en tout cas, ils viennent pour un dîner, un lunch gratuit, puis il y a une opportunité de s'échanger. Il y a le jeunesse, il y a des camps aussi là, l'été. Notre programme Option, ça c'est vraiment pour c'est un centre de ressources pour les filles qui connaissent une grossesse non planifiée. Donc plein de ressources, plein de cours, de parrainage, de mentorat, suivi, tout ce qui est support dans une grossesse non planifiée. On donne l'idée de donner, souvent les filles qui tombent enceintes non planifiées, ils disent qu'ils n'ont pas d'option là, tu sais, que d'avorter, mais on dit non, en fait, vous avez d'autres options. Puis c'est un peu ça, on est là pour cheminer avec eux, oui, il y a d'autres options. Là. Et aussi, on a depuis avril, maintenant, là, vous voyez sur la diapo, ça dit Maison Moïse, mais en 2015, c'était Maison Moïse, mais on a acheté, puis il nous a donné un bâtiment qui s'appelle maintenant Abrité. Juste, ouais, je tourne, ça, regarde-moi pas. Si vous... Oui, je pleure en même temps. Mais si vous me connaissez comme famille, aussitôt que j'ai vu que Cathy commence à pleurer, je dis « Ah, ça va m'aller mal! » On est une famille qui pleure, là. Fait que c'est, soyez patients avec moi, avec nous, là. Mais la maison abritée, là, pour beaucoup de filles qui se trouvent dans une situation de grossesse non planifiée, et souvent, c'est une situation précaire, point de vue maison. Ils ont soit ils n'ont pas le choix de si je ne me fais pas avorter, je n'ai pas de place à vivre. Là. Fait que nous, on a maintenant cette option pour une fille qui tombe enceinte, qui n'a pas de place où aller, mais là, on peut les abriter. En fait, c'est ça vraiment le mot, c'est un abri, d'être un abri pour ces filles. Mais on en a deux, mais même la fin de semaine passée, on est le premier bébé. Là. La fille a accouché la semaine passée. Donc, on a notre premier bébé, là, si on peut dire. Fait que ça, c'est vraiment, c'est tellement une joie d'être là pour présent pour ça. Et Dieu nous a vraiment appelés dans ce contexte, dans ce milieu. Là. Fait que ça, c'est un peu ce que Jeunesse sans limite fait. On fait beaucoup de choses très différentes. Puis c'est ça qui est un peu un défi pour moi. Là, comme moi, je trouve être le responsable programmation, mais en fait, j'utilise ça, ça fait des gros mots. Là. En fait, j'essaie d'être, comme vous voyez, beaucoup de différents programmes. Donc, c'est un support. On essaie d'encourager, équiper les leaders de chacun des sites, des centres, de vraiment être dans là où Dieu nous a appelés. Ça fait que ça, c'est vraiment une joie, un privilège pour moi d'être là, présent. Là. Donc, ça, c'est un peu le ministère, ce que je fais, pas à l'église ici. Donc, ça, c'est ce que je fais de lundi au samedi, puis dimanche, je suis à l'église. Donc, ce qui est vraiment le fun pour nous, je raconte, peut-être je l'ai déjà raconté ici devant, mais depuis que Thérésa et moi, on est mariés, j'ai dit « Ah, ce serait le fun peut-être un jour de travailler ensemble. » Puis elle a toujours dit « Je ne suis pas sûr. » Puis avec raison peut-être là, au début. Là. Mais depuis maintenant presque 5 ans, là, ça va 5 ans en septembre, on travaille tous les deux à Jeunesse sans limite, Jeunesse pour Christ, ensemble. Puis ça va bien. Bon, c'est bon. Non, mais c'est vraiment une joie de servir ensemble. On est toujours servi ensemble, mais d'être à l'intérieur de la même organisation. Depuis 5 ans, on fait ça ensemble. Fait que c'est vraiment une bénédiction aussi de vraiment servir. Puis on se rappelle souvent de cet appel il y a 30 ans maintenant. Là, tu sais, Dieu va nous appeler d'être missionnaire. Puis là, voilà. Fait qu'on est content d'être là. Là, maintenant, là, on parle de mission. Là. Fait que vous avez vu avec les Howell, l'Afrique. Nous, on est des Asiatiques. Ouais, c'est... Fait que vous avez vu un peu de Japon. OK, parfait. Là. C'est bon. C'est... Je sais que je ne suis pas drôle. Là. Mais là, maintenant, on veut vous partager. Là, l'automne passé, Teresa et moi, on a eu l'opportunité d'aller en Israël avec un ministère qui s'appelle Sun Life, là, S-O-N, pas Sun Life, les assurances, S-O-N. Et c'est un ministère qui est connecté avec Jeunesse pour Christ dans le sens que c'est des outils et la formation pour la formation des disciples. Puis c'est basé sur ce qu'on appelle l'harmonie des évangiles. Donc toute la formation et l'enseignement et même la visite qu'on a fait en Israël, c'est basé sur l'harmonie des évangiles. Donc c'est chronologiquement la vie de Jésus. Fait qu'on prend les quatre évangiles, puis on met les quatre comme parallèles et on suit chronologiquement le ministère de Jésus. Puis ce qui est vraiment intéressant, puis j'espère que ça va être une bénédiction pour vous, c'était vraiment une bénédiction pour nous aussi. C'est pas juste souvent quand on lit la parole, on voit le contexte où Jésus était, à qui il parlait, etc. Mais là, on a pris davantage un autre niveau de dire, mais où est-ce que Jésus était dans le cheminement de son ministère? Est-ce qu'il était au début, au milieu ou vers la fin de son ministère? Donc, dans cette idée-là, la chronologie de son ministère et de connecter différents événements dans le temps, c'était vraiment, en tout cas, nous, ça nous a vraiment éveillés de notre niveau, un autre contexte qui aide à comprendre davantage la mission de Jésus sur Terre et pour nous aussi qu'on peut comprendre qu'il y a une certaine, c'est la chronologie ou le temps dans la mission. Fait que je vais vous parler, bien, je vais juste vous montrer plein de diabos de différents endroits qu'on a visités. Puis j'espère que vous n'allez pas être inondés de trop d'images. Mais en tout cas, pour nous, c'était vraiment une bénédiction de pouvoir. Et on a passé la plupart du temps, pendant notre voyage, je dirais, nos journées commençaient comme ça. Puis là, en plein milieu de la journée, on est visité à un autre endroit, puis on était... Puis à la fin de la journée, on était... Puis honnêtement, on a passé beaucoup de notre temps juste émerveillé. Là. C'était difficile de capter ce qu'on sent. Je dis, mais c'est quoi ça? On marche où Jésus a marché. On voit ce que Jésus a sûrement vu. On goûte ce que... C'est comme... Puis on était là. C'est fait que j'espère que vous pourrez toucher un peu à cet aspect de la vie de Jésus. Donc, on a commencé en novembre. Donc, ça, vous voyez derrière, là, ça, c'est en haut, là, on est en haut du Mont des Oliviers, puis on regarde le temple de Jérusalem derrière nous. Là. Donc, comme j'ai dit, l'harmonie des évangiles, on suit. Donc, tous les diapos, ça suit vraiment la vie de Jésus. Là. Donc, ça, c'est ce qui est intéressant ici. Ça, c'est la ville de Jérusalem. Ils ont fait un genre de maquette de la ville de Jérusalem. Fait qu'on pouvait voir, en tout cas, peut-être c'est pas assez détaillé, mais on voit le temple en réel. Là. Moi, j'étais habitué de voir dans nos Bibles, etc., sur 2D. Là, on l'a vu, l'image, tout en 3D. Là. C'était quand même intéressant de voir la ville de David et la ville de Nazareth, de Jérusalem à différentes époques. Et aussi, ce qui était vraiment intéressant, les marchés de Jérusalem, des petites ruelles ou des rues, il y a plein de couleurs, plein d'épices, plein d'odeurs. Là. C'était vraiment fascinant juste de se promener. C'était occupé. Mais ça, c'est les rues. Vous voyez ça, là, c'était assez étroit. Là. Mais c'est les rues de l'ancienne ville, là, l'ancienne ville de Jérusalem. C'est vraiment rempli de couleurs. Et on a visité, donc ça, c'est le Bethléem, là, où Jésus est né, et on s'est mis les deux pieds dans la rivière Jourdain, où possiblement, mais c'est peut-être pas nécessairement exactement à cet endroit-là où Jésus baptisait, mais c'était quelque part pas loin du rivière Jourdain. Et on voyait derrière Teresa et moi, là, il y a des gens qui venaient se faire baptiser aussi. Il y avait des gens qui pouvaient te faire baptiser dans la rivière Jourdain. Là, fait qu'il y avait plein de gens qui faisaient ça. Comme nous, on a juste mis les deux pieds, c'est tout. Là. Mais c'était quand même... fascinant de voir ça. Et j'ai visité le mur du temple de Jérusalem. Et ici, je n'ai pas les photos de Teresa parce que les hommes et les femmes, on ne peut pas aller là, au même endroit. Fait que Teresa était à un autre endroit. J'aurais dû mettre une photo de toi de l'autre côté. Là. Fait qu'on était au mur en même temps, mais elle était juste un peu à droite. Moi, j'étais un petit peu plus à gauche pour visiter le mur aussi. Là. Donc, ce qui est quand même intéressant, c'est au temple, tu as la mosquée qui est en haut, tu as le mur et le temple où Jésus est... où Jésus a enseigné. Là. Fait que les trois religions, si on peut dire, sont concentrées sur un espace de 10 mètres carrés. Là. Il y a comme des Juifs, des musulmans et des chrétiens qui se ramassent là. Puis c'est un endroit, un lieu sacré, un lieu important. Là. C'est quand même Ça aussi, ça faisait pas mal, là, dur à vraiment expliquer. Ce que je voulais juste arrêter ici là, pour dire, ça c'est, il nous a enseigné là, tout au long, là, des choses, c'était plausible, possible, et, mais en anglais on disait preposterous, possible or probable. Donc, on parlait de tous les événements de la vie de Jésus et les endroits associés. Là, donc, probablement, ce coin ici, c'est le coin sud-est du temple. C'est là où le diable a amené Jésus pour voir, tu sais, il a dit le point le plus haut du temple. C'était probablement ce coin ici du temple où Jésus a été amené avec le diable pendant qu'il était dans le désert à la fin de ses 40 jours, là, quand Jésus l'a amené, qu'il l'a tenté. Et en tout cas, donc ça c'est juste fascinant en soi. Mais ce qui est quand même intéressant, puis de visiter les endroits comme ça, moi, je regardais ça, je dis, bah, regarde, c'est des murs, il y a des roches. Mais c'est notre guide, qu'elle était experte, elle a une maîtrise en histoire, puis c'était tellement fascinant de l'écouter. Là. Puis si on pouvait retenir 5% de ce qu'elle disait, c'était incroyable. Mais elle racontait juste de regarder chaque roche, puis ça démontrait une époque. Parce que les roches en bas, tu voyais, si tu regardais bien comme il faut, mais c'est formé légèrement différent. Là, donc ça, c'est il y a 4000 ans, ces roches ont été mises là. Mais là, ça a été détruit, ça a été rebâti. Fait qu'il y a comme 5 ou 6 civilisations juste décrites qu'on peut voir dans les roches des murs du temple. Là. Fait que c'est quand même fascinant comme histoire. Là. Ça aussi, on a visité la mer Morte et Jéricho aussi. Ça, c'est vrai qu'on flotte vraiment en haut, là. C'est vraiment spécial comme sentiment là, que tu peux pas mettre tes... Ah, c'est ça, t'sais, ouais, c'est vraiment dense, l'eau. Là. Et ça, c'est quelque chose qu'on a appris aussi à Séphoris. C'est une ancienne ville. Puis dans le temps de Jésus, c'était le capital de la région. Puis probablement, Jésus a travaillé ici avec son papa, comme menuisier, et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a appris. Est-ce que vous savez que c'est que Jésus, probablement, il était maçon. Maçon. Parce que le mot grec, tecton, c'est constructeur. Puis, en fait, ça peut être traduit charpentier ou maçon. Et si tu regardes partout dans le voisinage, tu ne vois pas beaucoup de bois. Bien, tu en vois plein de roches. Fait que c'est ça que les gens ils disent, mais probablement, c'est peut-être qu'il faisait justement, il travaillait du bois, mais c'est très fort probable qui travaillait là aussi, là, il était tecton, donc il travaillait avec, comme maçon, comme avec les roches. Fait que même un de nos leaders, ils disent, donc il était probablement assez solide, là, Jésus, comme jeune homme là, aussi, là, s'il tassait des roches. Fait que c'est quand même une image, on dit, OK, on pense, OK, Jésus qui coupe avec le bois, il ne pense pas avec les grosses roches. Mais en tout cas, c'est possible, c'est probable qu'il travaillait aussi, et probable qu'il travaillait dans cette ville aussi là, de bâtir... qui n'était pas loin de Capernaum. Nazareth. Oui, c'est ça. Effectivement, merci. Ça aussi, c'était vraiment intéressant. On a visité Nazareth, où justement, on a mangé. C'est un repas typique que Jésus aura mangé avec ses disciples. Et aussi, on a vu une interprétation quand Jésus a lu les Écritures dans Ésaïe. Là, donc, ça, c'est ce que vous voyez un peu à droite ici. Là, c'est une récréation, un art dramatique, une présentation de ça. Et ça aussi, c'est encore une autre fois. Tu es là, je suis comme, wow, ça c'est... C'est juste de s'imaginer qu'à cette époque-là, que Jésus, justement, il dit, voilà, ce que je viens juste de vous lire, là, ça a été accompli en lisant. Là, c'est comme... Ça, c'était quelque chose. Et ça, c'est un des synagogues à Capernaum où c'est très probable que Jésus a enseigné aussi à plusieurs fois. Puis en bas, ici, c'est la maison, tu sais, les restes, ou les, comment tu appelles ça, les ruines de la maison de la mère de Pierre aussi, là, dans le village de Capernaum. Et ça aussi, là, il marchait. Donc ça, c'est le lac de Galilée, là, la mer de Galilée. Et ça, c'est vraiment spécial. Là. Je peux vous dire là, un des moments que moi, j'ai vraiment apprécié. Là, un matin, très tôt, je me suis levé, puis j'ai couru. J'ai fait mes je courais 5 kilomètres, mais je courais le long des rives du lac Galilée. Puis en même temps, il était 6 heures le matin, le soleil se lève, puis il y a des pêcheurs qui mettaient leur bateau à l'eau pour aller à la pêche. Puis je dis, ça se peut pas, Seigneur, que Tu sais, il y a 2000 ans, tu sais, Pierre, tu sais, ils mettaient leur bateau à l'eau et allaient à la pêche le matin, là. Fait que c'était comme... Puis c'est juste, on était capable de respirer ça, de voir ça devant nos yeux, là. Ça, c'était vraiment spécial. Et vous voyez même le bateau qui est là, c'est un bateau que probablement, c'est très similaire que des barques qu'ils ont utilisées dans le temps de Jésus aussi. Là. Ils l'ont trouvé ça à un moment donné, puis ils l'ont restauré là, ici dans un musée juste à côté. Et de l'autre côté là, du lac, ça c'est le, en fait c'est les Golden Heights, c'est les, comment tu appelles ça là? Les monts Golan ou Mont Golan? Parce qu'en anglais, on dit Golan Heights, tu sais, donc c'est parce que c'est tout long. Hein. En tout cas, je ne sais pas. En tout cas, c'est de l'autre côté. Anciennement, c'est en Syrie, mais en 67, avec la guerre, Israël a pris possession de cette, le côté ouest, côté est de lac Galilée. Et on a visité ça aussi. Et ça aussi, c'était quelque chose de spécial, de marcher sur le mont des Béatitudes. C'est là où on est, une petite église qu'ils ont construite en haut. Donc, on a marché, puis ça, Jésus était sur la montagne, il s'assoit, il enseigne à ses disciples la parole. Il dit, heureux ceux qui... toutes les Béatitudes qu'on a... L'année passée, on a décortiqué, on a partagé ensemble. Mais d'être assis, on était assis en dessous d'un olivier, avec la vue, la mer, la mer de Galilée, et on enseignait, nous enseignait les paroles de Jésus à ce moment-là. C'était quelque chose d'extraordinaire pour nous, juste d'imaginer Jésus en train d'enseigner ses disciples au même endroit. Et ça, j'aimerais juste arrêter. OK, mais je vais voir avec le temps. Je pense que je suis correct avec le temps. Mais ça, c'est en Curcie. Donc, de l'autre côté, ils arrivaient de l'autre côté du lac, dans le pays de Curcie, là, donc... Où était l'homme qui était possédé, l'homme possédé? Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris quand on était là. Quand on est là, on est un côté du lac, on voit l'autre côté du lac. Fait que moi, toujours en grandissant, je dis, mais la mer de Galilée, ça doit être grand, là, comme le lac supérieur ou quelque chose, mais pas du tout, là. C'est comme notre lac Malaga, presque. Non, mais un petit peu plus grand que ça, mais c'est quand même, on voit l'autre rive. Donc, l'homme qui disait qu'il marchait qui marchait et criait, probablement de l'autre côté, on l'entendait. Fait que quand ils ont dit, quand Jésus a dit à ses disciples, allons de l'autre bord, ils disent, ouais, mais le fou, le gars malade, là, on entend crier, là, il est là, là. Fait que probablement, il savait déjà que, OK, c'est pas idéal d'aller de l'autre bord. Fait qu'ils arrivent de l'autre côté, puis là, on connaît peut-être, je pense qu'on connaît tous l'histoire que Jésus a guéri, a chassé les démons dans le troupeau de porceaux, puis les porceaux sont allés dans la mer. Bien, en fait, ça, c'est la falaise où ils disent que c'est probablement là où cet événement s'est passé. Mais ce qui est intéressant avec ça, je me suis toujours arrêté dans cette parabole, dans cette histoire, parce que l'homme qui a été guéri, il a été possédé par une légion de plusieurs démons, il a dit, « OK, Jésus, je veux te suivre. » Puis Jésus a dit, « Non, va-t'en ton peuple, viens pas avec moi. » Je me suis toujours dit, « Mais pourquoi est-ce que des fois Jésus dit, « OK, suis-moi. » D'autres fois, il dit, « Retourne à ton peuple. » Il y a plusieurs fois, là, il y a une différente réponse. Mais quand on regarde la chronologie de la vie de Jésus, cet événement s'est passé, donc Jésus a dit, « Non, tu ne me suis pas. » Retourne à ton peuple. Mais ça, c'est de l'autre bord, c'est un autre, c'est là, dans Décapole, donc c'est une autre région. À cette époque-là, c'est géré par un autre de Hérode. Là. Donc, c'est un autre peuple. Mais 4 mois plus tard, Jésus revient dans la même région, puis nourrit 4000. Puis là, il dit, ah, mais pourquoi est-ce qu'il y a eu 4000 personnes qui sont venues? Puis on s'est dit, mais peut-être ces 4000, ils ont entendu parler de ce gars-là, puis ils ont vu le vécu de dire, « Ah, mais ce Jésus a changé sa vie. J'aimerais bien entendre davantage sur lui. » Fait que les 4000 qui ont été nourris par Jésus 4 mois plus tard, ils disent, « Ah, ça, c'était peut-être le plan de Jésus. » Fait que retourne à ton peuple, dis à ton peuple ce que Dieu a fait pour toi, ce que j'ai fait pour toi, ce que Dieu a fait pour toi. Mais il n'a pas dit, « Je reviens dans 4 mois. » Il dit, « Va faire ça. » Mais Jésus, il dit, « Mais il y a des bonnes chances que je vais revenir te voir. » Fait que de regarder juste cette chronologie, le contexte, c'est comme, ah, oh, wow, Jésus avait un plan, là. Donc, c'est pas pour rien, il dit, retourne à ton peuple. Donc, cette idée-là de suivre Dieu, c'est, mais non, mais je veux te suivre, je veux être là avec toi. Non, non, retourne à ton peuple, j'ai un autre plan, là. Laisse-moi faire mon affaire, là. Moi, j'ai un plan, retourne à ton peuple. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié, de dire, OK, c'est tellement important de comprendre les contextes et les chronologies dans la vie de Jésus, dans ses enseignements. Et ça aussi, ça c'est juste vers la fin, je pense que je vais aller un petit peu plus vite ici, là, mais ça c'est la chambre haute et aussi ces marches ici, que vous voyez la photo au milieu, ils ont excavé ça, ça ne fait pas si longtemps que ça, puis c'est probablement les marches où Jésus a descendu quand il est allé voir Caïphas, il retournait, en tout cas, ses dernières heures sur terre, là, c'est là où il a probablement marché. Puis, complètement à droite, là, vous voyez, ça, c'est le jardin de Gethsémané aussi, les oliviers. C'est vraiment, on est vraiment une belge. Ah, ouais, OK. Je regarde ici, je dis, en tout cas, vous voyez, ouais, vous savez, là, c'est avec les oliviers, là. Ça, c'est là. Et ça, c'est le tombeau. Un des deux endroits où il pense que Jésus a été enterré. Il y a deux endroits différents. Il y a un peu de discussion exactement lequel des deux, là, mais c'est quand même, ça donne une idée à quoi ça ressemblait le tombeau où ils ont mis Jésus. Là. Et ça, je vais juste terminer avec ce diapo. Ça, c'est les marches sur le côté est du temple où probablement Pierre s'est levé, tu sais, le jour de Pentecôte, puis il a dit aux gens, tu sais, parce que tu sais, les gens, tu sais, l'Esprit Saint les a rencontrés, puis ils parlent en différentes langues. Puis les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est probablement là où Pierre s'est levé pour dire, mais voilà, il se lève, puis il dit, tu sais, homme de Judée, et vous êtes ici à Jérusalem, je vais vous dire, là, on n'est pas sous, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Là. Et ce que moi, ça m'a vraiment frappé quand on était là, ça c'était 40 jours après la mort et résurrection de Jésus. Et tous ces gens-là qui étaient devant Jésus, tu sais, le tombeau là, où Jésus a été mis, c'était 800 mètres là, juste derrière. Là. C'était comme pas loin. Là. Donc, tout ce qui se passait, le temple, c'est juste en haut du temple. Fait que tous les événements et les discussions et le brouhaha, les gens étaient là. Ils savaient qu'il y avait quelque chose d'étrange, de différent qui s'est passé. Fait que quand Pierre s'éleva, là, c'est comme pas des inconnus. Là. Les gens avaient des idées là, que... « Wow, quelque chose de bizarre s'est passé. Oui, on a entendu parler, là, tu sais, du tombeau est vide, et où est le corps? Hey, il y a des gens, tu sais, les prêtres, tu sais, il y a plein de choses qui se passent. » Donc, Pierre, il dit, « Mais voilà ce qui s'est passé. » Puis il y a 3 000 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur là, à ce moment-là. Mais c'était là, là. Donc c'est juste, ça m'a frappé tellement que, mais c'est bien sûr, les gens étaient comme préoccupés et même à l'écoute, parce qu'ils disent, « Mais 3 000 personnes, pourquoi est-ce qu'ils ont dit oui? » Bien, c'est comme ils ont compris que, « Ah, mais merci, Pierre. C'est ça, là, tu as mis les morceaux en place. Là, je le comprends. Parfait. Oui, j'embarque. » Puis c'est où finalement, notre héritage part de là. L'Église, la première Église, était, tu sais, à Pentecôte, il y a 3 000 qui ont été sauvés, qui ont embarqué, là. Ça, c'est vraiment intéressant de... Je dirais, ce serait tout un enseignement. Là. C'est pour ça que j'ai mis juste quelques phrases. Mais l'idée qu'il a dit, ben voilà ce qui s'est passé, vous avez crucifié Jésus. En fait, la vie de Jésus a été pour vous, là, de vous sauver vos âmes. Là. Donc il disait, vous êtes coupés au cœur parce que vous avez crucifié ou nous avons crucifié Jésus. Mais en fait, son plan, c'était non, avec ça, avec sa mort, Nous, on peut rejoindre Dieu ou on a accès à Dieu. Fait que c'est tout le message, en fait, de l'Évangile, le premier partage, si on peut dire, de l'Évangile. Comment être sauvé, là. Comment suivre Jésus. Là. Fait que...
Oui, est-ce que vous avez entendu une théorie, c'est juste un détail, là, mais quand il y a-t-il un cours d'eau par là, parce que les 3 000, je pense, ont été baptisés.
Mais en fait, c'est... Non, parce que tu as deux vallées, là, juste là, à peu près 200-300 mètres, il y a deux vallées, là, parce que tu es en haut là, sur le temple, tu as la ville de David juste en bas, puis tu as la piscine de Siloam qui est pas loin aussi. Là, fait que non, il y a de l'eau, il y avait de l'eau pas loin. Là, fait que, non, j'ai... ben c'est... Non, j'ai... Je sais pas... OK, fait que là, c'est Teresa qui va partir, puis qui va poursuivre, là.
Moi, je, moi, je suis quelqu'un qui... J'ai l'impression que je me sens plus proche du Seigneur quand je suis dans la nature. Je pense que... Je ne sais pas si certains d'entre vous, des fois, vous sentez plus proche du Seigneur quand c'est le temps de la louange, ou d'autres personnes, c'est quand c'est dans l'étude biblique, au niveau intellectuel. Chacun de nous est un peu différent. Et en général, moi, quand je suis en haut d'une montagne ou quelque chose, quand j'admire sa création, je me dis, waouh, je me sens proche du Seigneur. Bon, en tout cas, c'est un temps où je me sens capable de me rapprocher de Dieu. Il y a quelques années, j'ai eu envie d'apprendre le psaume 23 par cœur. Alors, je vais vous le lire. Il est ici. Sur l'écran, et c'est un cantique de David. Le psaume 23 dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal, car tu es avec toi. » Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'ai mis le quatrième verset en rouge parce que moi, je pensais toujours que la vallée de l'ombre de la mort, c'est un endroit symbolique qui est par rapport au temps difficile dans notre vie. Il y a certaines choses qu'on doit passer à travers seul, n'est-ce pas? On est entouré de notre famille, de nos proches, de nos frères et sœurs dans le Seigneur, mais il y a certaines épreuves dans la vie à travers on passe tout seul. Que ce soit la maladie, que ce soit quand on entre dans la salle d'opération, on peut être entouré de différentes personnes. Quand on est à l'approche de la mort, on est entouré, mais il faut passer à travers ces moments difficiles seul. Et ce verset 4 est resté en moi. Je me souviens plus ou moins du psaume 23 par cœur, mais vraiment, c'est le quatrième verset qui m'est resté en tête. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, pourquoi je me sens plus proche de Dieu dans la nature et par rapport à notre voyage en Israël? Donc, comme vous avez entendu, on est allé en Israël pour suivre les traces de Jésus dans l'ordre chronologique de son ministère et pour comprendre comment il a vécu et comment il a formé des disciples. Et je peux vous dire qu'il y a un endroit qui m'a marqué énormément durant ce voyage-là. Et cet endroit, c'est le Wadi Kelt. C'est l'endroit que j'ai identifié en rose entre Jéricho et Jérusalem. C'est une vallée déserte, un canyon, et c'est rocheux, c'est aride, et puis c'est vous voyez en vert un peu, c'est dans la partie qui en anglais s'appelle West Bank, Cisjordanie. Et c'est vraiment un canyon où on peut faire des randonnées et il y a des sentiers. Il y a un sentier spécifique que Jésus prenait régulièrement. Et il prenait ce sentier entre Jéricho et Jérusalem pour monter à Jérusalem. C'est souvent, on entend parler, bon, il devait aller à Jérusalem, il monte à Jérusalem. C'est parce que souvent, si vous voyez au nord complètement, vous voyez la ville de Nazareth, c'était plus facile. Il y a des montagnes entre Nazareth et Jérusalem. C'est plus facile de descendre vers la rivière du Jourdain et longer le Jourdain, puis après ça, passer de Jéricho et monter à Jérusalem. Alors, c'est vraiment un endroit, c'est magnifique, c'est très beau, mais c'est très sec. Et cette vallée, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Et c'est vraiment un endroit physique qui existe. Et c'est aussi l'endroit où certains pensent que le bon samaritain, l'histoire du bon samaritain a eu lieu aussi. Et le sentier, c'est pas... C'est pas comme ici. Quand on parle d'un sentier, là, c'est pas large, c'est vraiment étroit. Il faut marcher à la queue leu-leu, un derrière l'autre, en file, parce que c'est étroit et c'est au bord d'une falaise. Je savais que cette randonnée allait être difficile pour moi parce que je ne sais pas si certains d'entre vous, dites-moi, levez la main si vous avez un peu peur des hauteurs. Ben, moi, j'ai un peu peur des hauteurs et ça s'est empiré avec le temps. Alors, mais je me dis, OK, les gens le font, je vais être capable de le faire. Et on a commencé à marcher sur ce sentier, puis il fallait marcher. Une fois que tu commences, tu ne peux plus retourner en arrière. C'était une marche d'à peu près 6 km pour nous. Et puis, alors, on a commencé à marcher. Au début, c'était correct, c'était assez large. Je peux me tenir à côté d'un côté, là, le plus loin possible de la falaise. Mais après ça, là, tu marches, puis on est tout le long d'une falaise. Et puis, le Wadi Kelt, c'est en bas, il y a un ruisseau qui était desséché à ce moment-là. Mais je marchais. Puis, moi, quand on a peur des hauteurs, moi, là, je suis attirée vers le vide. Je perds mon équilibre. Je me sens là. Oh! Alors, j'ai commencé à marcher, puis je devais mettre ma main comme ça pour empêcher d'avoir la vision périphérique du gouffre. Et je mettais un pied devant moi, un pied derrière l'autre, et je me suis rappelé du verset. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et je me répétais ça. Et c'était en même temps symbolique, n'est-ce pas? Parce que des fois dans notre vie, on a des choses que l'on doit. C'est seulement le Seigneur qui peut nous accompagner dans cette marche. Et je vous dis que j'étais en mode survie. J'étais là, si je tombe, je suis morte. D'ailleurs, ça s'appelle la vallée de l'ombre de la mort parce qu'il y a différentes façons qu'on peut mourir. On peut tomber, c'est sinueux. Et il peut y avoir des brigands qui se cachent derrière, comme dans l'histoire du bon samaritain, qui se cachent dans une petite grotte. Et c'est... En tout cas, tu es seul. Tu es seul, là. Il y a toutes sortes de façons qu'on peut mourir. Mais j'ai survécu et je marchais et je dis, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et finalement, le sentier s'est élargi un petit peu. Et puis David, à ce moment-là, pouvait marcher avec moi, puis je pouvais comme un peu le tenir, parce que le sentier s'est élargi à un moment donné, puis j'ai pu me calmer un petit peu aussi. Et il faisait très chaud, parce qu'on n'est pas loin, Jéricho, c'est pas très loin de la mer Morte, et on est à moins 300 mètres en dessous du niveau de la mer. Alors, c'est très, très chaud. Alors, c'était un moment d'apprentissage que je n'oublierai jamais. David a pris un petit vidéo. Alors, si tu peux passer aux vidéos, et pour vous donner une idée. Maintenant, c'était un endroit où c'était assez large pour qu'il puisse tenir son cellulaire et filmer. Parce qu'aux autres endroits, c'était tellement étroit et dangereux qu'il fallait ranger ses cellulaires puis juste se concentrer. Alors, cet endroit que vous allez voir, ça va peut-être vous donner une petite idée, mais ce n'était pas un des endroits les plus dangereux.
Et j'ajouterais aussi, là, juste de comprendre, entre Jérusalem et Jéricho, c'est à peu près 25 km de marche, mais le Wadi Kelt, c'est à peu près 6 ou 7 km. Nous, on a fait 6 km, mais de Jérusalem à Jéricho, c'est 25 km. Donc, c'est une journée de marche. Donc, quand Jésus montait, t'sais, la famille montait à Jérusalem, ou on descendait de Jérusalem à Jéricho, c'est une journée de marche. C'est pour ça, d'ailleurs, aussi, là, quand la famille de Jésus, ils étaient au temple, puis ils sont partis, puis ils ont descendu de Jérusalem à Jéricho, ça avait pris une journée, puis là, t'sais, Marie et Joseph, ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas avec eux, mais tu peux imaginer aussi, parce que, t'sais, sur cette file-là, là, je disais, il faut marcher, tu ne marches pas toute la gang ensemble, là, fait que tu t'attends, tu arrives à Jéricho, il n'est pas là, Jésus, mais... Pourquoi ça a pris deux jours? Parce que c'est une journée de marche de Jérusalem à Jéricho, mais c'est deux jours de marche de montée. Fait qu'en fait, c'est aussi, c'est comme, ah, mais ça a du sens, parce qu'il dit, il me semble chercher deux jours dans le village, dans la ville de Jérusalem, il me semble qu'on pourrait trouver Jésus. Mais en fait, c'était deux jours de marche pour retourner à Jérusalem. Fait que ça a pris une journée de marche et deux journées de marche avant de retrouver Jésus. Fait que c'est juste de comprendre le contexte aussi, ça aide dans les différentes histoires, ça ajoute un autre contexte, une autre couche dans la compréhension. Donc, la conclusion de notre temps aujourd'hui, parce que moi, j'aime toujours un message avec trois points. Là. Si vous me connaissez, là, moi, je dis, message, il faut qu'il y ait trois points. Fait que ça, c'est nos trois points qu'on a à partager pour l'Église, pour être une bénédiction pour nous, pour l'Église. D'être en mission, là, donc tout ce mois-ci, on a parlé de la mission, et la mission, c'est, en fait, la mission, c'est de suivre Jésus. Jésus nous appelle. Donc, ça, c'est la mission. Il nous appelle sur cette mission-là. Et il y a un plan. Et le troisième point, c'est qu'il nous invite à le suivre, mais en même temps, Jésus est le plan. Là. Donc, le plan, ce n'est pas un plan. Là. Le plan, c'est Jésus. Là. Fait que c'est un peu ça, là, nos trois points. Là. Non, c'est bon, ça? Est-ce que c'est correct? Là? J'ai eu l'appui de mes enfants pour mes trois points. Là. Fait que c'est bon. Mais en fait, c'est ça que pour nous, là, on prie pour vous, pour nous, pour l'Église. Jésus a un plan, il nous invite à le suivre, et c'est vraiment, on ne sait pas exactement où et quand est notre mission, mais c'est certain que Jésus a un plan pour nous, et nous, notre part là-dedans, c'est d'être fidèle et de suivre. Et justement, comme on a commencé juste avec cette idée de penser à Richard qui nous a quittés, là, puis c'est tellement, moi je vois juste, ça c'est un homme fidèle. Il était appelé, il était juste fidèle. Donc Dieu l'a trouvé fidèle. Puis c'est ça que je dis, ah, c'est comme Cathy a partagé, si je peux juste être un petit peu, moi je veux juste être un petit peu comme Richard, là. Je veux juste être trouvé fidèle. Donc ça, c'est un peu la mission. Là. Dieu nous appelle, on a juste à dire oui, puis Jésus a un plan pour nous. Là. Fait que j'aimerais ça juste prier pour vous, là. J'espère que ça vous a béni. On n'était pas sûr comment présenter notre voyage sans que ce soit juste une présentation de photos, mais j'espère que vous avez pu comprendre un peu nos apprentissages et vraiment notre désir aussi de suivre davantage Jésus et son plan pour nous. C'est pas juste l'objectif, c'est pas juste de vous donner le goût d'aller visiter en Israël, mais c'est vraiment juste de suivre Jésus davantage et d'être dans son plan. Là. Fait que, OK, je pensais que c'est bon. Ça. Parfait. Fait que prions ensemble. Seigneur Dieu, merci parce que tu as un plan pour nous. Tu nous invites à te suivre, Seigneur. Tu dis, suivez-moi. Seigneur, aide-nous d'être fidèles à cet appel, Seigneur. C'est une décision personnelle, mais on est ensemble avec toi, Seigneur. Tu nous invites dans cette famille. Merci qu'on peut cheminer ensemble en famille. Mais merci, Seigneur, que c'est une invitation personnelle. Tu nous invites personnellement à te suivre, Seigneur. Aide-nous d'être fidèles à cet appel, Seigneur, pour chacun de nous. Là où tu nous as placés, Seigneur, aide-nous d'être fidèles. Seigneur, on t'aime, on veut te suivre. Là. Seigneur, aide-nous à te suivre, Seigneur. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Amen.